Europe 1,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans Bien fait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on scrute et on tente d'améliorer tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Et ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien Julia, aujourd'hui un sujet un peu intime, en tout cas très personnel, que l'on va décortiquer ensemble. Ce matin on va se questionner autour de ce sujet. L'amitié est-elle indispensable à notre bonheur ? On peut se poser la question, est-ce aussi crucial que l'amour pour notre développement personnel, et puis comment se font ou se défont les liens amicaux. Pour réfléchir à tous les aspects autour de cette thématique, on a prévu deux expertes aujourd'hui. D'abord Anne-Laure Buffet, elle est thérapeute, conférencière et auteure du livre L'amitié aux éditions Erol. Et puis Alexandra Deroulac sera aussi des nôtres, elle est coach en développement personnel.
Et ensuite à 11h45, ce sera notre séquence tendance. Pour commencer avec Muriel Giordan du magazine Avantage, on va faire un coup de projecteur sur ces trucs très à la mode mais qui nous pourrissent le quotidien, les arnaques. SMS, appel à répétition pour votre compte CPF, faux mail de la poste ou même de l'assurance maladie, comment les repérer ? Muriel nous expliquera tout. Et enfin, on va terminer avec la chronique gourmande de Margot Grossman. Ce matin, elle va nous expliquer ce que l'on doit mettre dans nos assiettes pour avoir une belle peau. Allez, bien fait pour vous, c'est parti.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile ou en tout cas pour vous aider à mieux comprendre ce que nous vivons. Et aujourd'hui, notre question du jour est la suivante. L'amitié est-elle indispensable pour notre bonheur ? Qu'en pensez-vous, Clément Lanoux ? Bonjour.
Bonjour, je suis fan de cette question déjà, j'adore l'amitié. Contrairement à l'amour, c'est toujours réciproque, c'est ce qui est pas mal. Alors évidemment que c'est indispensable à condition de bien choisir ses amis. Je ne sais plus si c'est Victor Hugo ou le père Fouras qui disait les amis, c'est comme les clés, on les accumule tout au long de sa vie. Parfois on les perd, on est dégoûté. Parfois on en a trop et on ne sait même plus à quoi ils servent. Donc voilà, l'idée c'est de bien compter ses amis. Et je vous pose la question, Julia, Mélanie, combien vous avez d'amis, vous pensez ?
On les comptait avant cette émission. Et moi, vraiment, des vrais amis, j'en avais trois. Hein, c'est ce que j'avais noté.
Moi, deux. Ouais. Oh là là,
est-ce que des garçons, par contre, je tiens à préciser.
Hein. Et tous ceux qui sont en train de compter dans leur voiture sont en train de se dire « Oui, il y a une différence entre les amis et les vrais amis. » Et ma mission aujourd'hui va être tout simplement de distinguer parmi vos amis si ce sont des amis ou des vrais amis.
Ah.
Pour ça, j'ai fait une grande enquête et vous allez voir. Si, par exemple, vous déménagez un samedi du mois de juin et que la personne vient, c'est un...
Un ami.
C'est non. Juste un ami, effectivement. Ouais. En revanche, s'il n'y a pas d'ascenseur et que c'est au sixième étage,
là,
c'est un vrai ami.
C'est un mazou.
Voilà, si la personne n'oublie pas jamais votre anniversaire, c'est un ami.
Oui.
Voilà, s'il n'a pas besoin de Facebook pour ne pas oublier votre anniversaire, c'est un vrai ami. Voilà, un ami connaît toutes vos chansons préférées par cœur. Voilà, un vrai ami ne supporte plus vos chansons préférées. Un ami connaît le prénom de vos parents. Un vrai ami connaît leur métier. Un ami, c'est quelqu'un qui t'aide à cacher un corps en pleine nuit si tu as besoin. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui t'aide à buter la personne. Voilà. Et qui accepte même de l'enterrer dans son propre jardin. Voilà. Et puis pour terminer, un ami, c'est une personne qui te prête de l'argent si tu as besoin. Un vrai ami, c'est quelqu'un qui te connaît bien et qui sait qu'il ne reverra jamais l'argent.
Donc qui te dit pas. Non.
Voilà. J'espère vous avoir aidé à faire le tri.
Oh,
je ne sais pas si vous êtes des vrais ou des ou juste des amis, mais je vous laisse juger.
Bah nous, on est copines en tout cas.
Nous, on n'est pas encore amis, mais
pas encore, ça va venir.
Au bout de 10 ans de bienfaits pour vous, on le sera.
Allez, c'est parfait, ça sera notre mission. Merci beaucoup Clément Lanoux.
Je vous en prie.
On va maintenant se tourner vers nos spécialistes du sujet. Je commence par vous, Alexandra Deroulac. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach en développement personnel sur le site coachdubonheur.com. Avec nous également Anne-Laure Buffet. Bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes thérapeute, conférencière et auteur du livre L'amitié aux éditions Erol. Alors Anne-Laure, pour commencer, est-ce que vous avez une définition de l'amitié ? Bon, on a eu celle de Clément Lanoux qui est humoristique, on va dire, mais on peut parler d'amour sans sexualité. Si je dis ça, ça va ? Ou c'est pas tout à fait ça ?
C'est un peu ça, quand même. A priori, dans l'amitié, il n'y a pas de sexualité. En tout cas, c'est à la différence de l'amour, mais il le dit d'ailleurs, Clément. Il y a une vraie réciprocité. On ne peut pas être ami de quelqu'un qui n'est pas notre ami. Alors qu'on peut être amoureux de quelqu'un qui ne nous aimera jamais.
C'est
désespérant, mais c'est ainsi. Et surtout, l'amitié, c'est de la réciprocité, c'est de la loyauté. On n'est pas forcément loyal. En amour, on devrait, mais on ne l'est pas toujours.
Ça a l'air plus cool que l'amour, finalement, presque. Cela.
C'est plus cool, mais ce qui est certain, c'est que les ruptures amicales font beaucoup plus mal que les ruptures amoureuses. Enfin, la rupture amoureuse, on va en mourir pendant quelques semaines et ça passe. Une rupture d'amitié, je vous entendais en arrivant quand vous parliez de vos histoires, une rupture d'amitié longtemps après, on la comprend toujours pas et elle est toujours aussi blessante parce qu'elle est toujours aussi inexpliquée.
Ça, c'est sûr.
C'est peut-être là aussi la différence, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de sexualité, C'est-à-dire qu'il peut y avoir ce moment d'égarement, quelle que soit la période depuis laquelle on est amis. Il peut y avoir un jour où on est un peu comme quand Harry rencontre Sally, on bascule entre les deux, on ne sait plus trop. Mais en revanche, lorsqu'il y a une rupture, on s'en remet très difficilement parce qu'il y a quelque chose qui est inexplicable. Alors qu'en amour, malheureusement, on se doute que ça peut s'arrêter.
Mmh. Alors, on a tendance à moins considérer ce lien, non, comparé à l'amour, par exemple, ou à la famille. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexandra ?
Alors, ça dépend. En fin de compte, chaque personne est différente. Donc, pour certaines personnes, l'amitié, ça va être juste leur moteur. Et puis, pour d'autres, leur domaine de vie est bien rempli au niveau de leur vie professionnelle, de justement ce que vous me disiez, l'amour, la vie familiale. Donc, peut-être... l'amitié sera moins importante. Donc, je pense que chaque personne est vraiment différente. Mmh. Hein. L'amitié peut être vraiment une valeur principale. Moi, je sais que ma mère m'a toujours donné cette valeur. Et pour moi, l'amitié, c'est la vie. Quoi. C'est vraiment important. Mmh. Et j'en profite pour dire bonjour à mes amis. Mais chaque personne est différente.
Alors, est-ce que nos relations amicales ont changé, peut-être, ces deux dernières années, même avec la crise sanitaire, ou même de manière plus large, depuis 10-15 ans, avec les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est amis aujourd'hui comme on était amis dans les années 30, les années 40? Est-ce que les lignes ont un petit peu changé, peut-être?
Dans la pratique, dans le sentiment d'amitié qu'on ressent individuellement, c'est toujours la même chose. Fondamentalement, ce sentiment-là ne va pas évoluer. En revanche, l'importance qu'on accorde à l'amitié... collectivement a évolué, et je distinguerai et les réseaux sociaux et la crise sanitaire, parce que en fait ce livre-là, il est pas né de la crise sanitaire, mais c'est parce qu'il y a eu la crise sanitaire et cette espèce de panique générale à plus être proche de ses amis, à plus pouvoir les voir, leur parler. Ok, il y a les réseaux, ok, il y a les visios, etc. Mais c'est pas la même chose. Mm-hmm. Le besoin tactile que l'on a de l'autre, on l'a perdu à ce moment-là, et c'est drôle, si je peux le dire ainsi, mais moi, qu'on interroge plus souvent sur tout ce qui est toxicité, violence intrafamiliale, etc., là, on m'a beaucoup interrogé sur l'amitié. Donc, ce manque profond, il est ressorti dans ce livre, entre autres.
Alors, Alexandra, je rappelle que vous êtes coach du bonheur. Et justement, est-ce qu'avoir des amis, c'est indispensable pour être heureux, selon vous ?
Alors, la psychologie positive, en tout cas, nous démontre qu'en effet, le bonheur passe par la relation des autres. Donc oui, c'est indispensable, mais après, je ne veux surtout pas culpabiliser ceux qui n'ont pas d'amis. Si vous n'avez pas d'amis, c'est OK, mais posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous n'avez pas d'amis parce que vous avez peur d'être rejeté ? Est-ce que vous n'avez pas d'amis parce que vous avez peur d'être encore déçu ? Ou est-ce que parce qu'aujourd'hui, ça vous convient, et puis peut-être à un moment, vous aurez besoin de renouveler votre réseau amical. Mais oui, à la base, avoir des amis, c'est évidemment booster son bonheur.
Ça me semble dingue de ne pas avoir d'amis du tout. Ça doit être difficile à vivre, non ?
Alors, votre avis, il est très tranché sur la question. Vous écrivez qu'il semble inimaginable de ne pas avoir d'amis dans sa vie, ne serait-ce qu'un seul. Pourquoi c'est essentiel, selon vous ?
C'est essentiel, il y a deux facteurs. Il y a ce qui nous est renvoyé par la société et il y a la façon dont on se construit. Ce qui nous est renvoyé par la société, c'est quelqu'un qui n'a pas d'amis. C'est un peu comme quelqu'un qui n'aurait pas d'amour dans sa vie. C'est louche. Ouais. Donc, quelqu'un qui va se présenter en disant « j'ai pas d'amis très proches », c'est comme s'il arrivait avec une étiquette « attention, danger ». Mm-hmm. Et il ne le fait pas exprès. Hein. Ouais, oui. Et il y a plein de personnes qui pensent ne pas avoir d'amis parce que pour eux, c'est une valeur incroyable. Et en fait, ils ont des amis, mais pas... peut-être pas aussi profondément qu'il le souhaiterait. Et puis, individuellement, profondément, je crois que l'amitié nous nourrit et elle nous permet de nous construire, de nous élever, de nous dépasser. Et si on n'a pas d'amis, il nous manque une part de nous qu'on n'est pas capable d'aller chercher, que les amis vont aller chercher pour nous.
Très bien. Bon, vous restez avec nous, on ne fait que débuter cet entretien. D'ailleurs, je vous pose la question, combien avez-vous d'amis ? Alors, il y a peut-être plusieurs niveaux, mais les amis fidèles, vous en avez ou pas ? Pourquoi êtes-vous tombé en amitié avec lui ou elle, ou pas un ou une autre ? Vous sauriez l'expliquer ? Eh bien, c'est ce qu'on va tenter de faire dans quelques minutes sur Europe 1, donc ne bougez pas.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
C'est votre génération, ça
Tout à fait. Hein, Glenn Medeiros, ouais. Et Elsa. Ils étaient très amis dans le clip, je me souviens. Ouais.
Dans la vie, à savoir. Hein,
peut-être, moi, je pensais qu'ils étaient amoureux.
Ah, parfois, on ne sait pas. Peut-être de ces limites-là. Vous êtes toujours dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, Mieux Vivre. Ce matin, on se pose cette question. L'amitié est-elle indispensable à notre bonheur ? Pour en parler, elles sont toujours à nos côtés. Alexandra de Roulac, coach en développement personnel, ainsi qu'Anne-Laure Buffet, thérapeute, conférencière. Anne-Laure, des gens, on en croise tous les jours. Mais qu'est-ce qui va faire, justement, que deux personnes. Deviennent amis. Je dis paf, ouais. Ce sont les points communs, les affinités. Qu'est-ce qui fait que ça accroche ?
Il y a plein de raisons pour que ça accroche.
Même si ça n'est pas paf, ça peut être plus lent que ça.
Ça peut être paf, paf, paf. Il y a plein de raisons. Ça peut être d'abord des affinités intellectuelles, des affinités dans les goûts personnels, dans la façon dont on va aller chercher un moyen de s'exprimer, artistique, culturel, que sais-je encore. Ça peut être, comme je l'évoque dans le bouquin, un exemple qui est très frappant, des amitiés qui sont complètement improbables à l'origine. Celle que j'évoque, c'est l'amitié entre un Palestinien et un Israélien, dont l'histoire est d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Apérogon, un livre merveilleux. Ces deux pères qui perdent chacun un enfant, chacun tué par une balle perdue du camp adverse, et qui vont se retrouver, qui deviennent amis, mais vraiment amis intimes, alors qu'a priori, ils devraient être ennemis tels qu'on l'imagine. Il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on devienne ennemi. C'est ça. Enfin, ce qui est fabuleux dans l'amitié, c'est qu'elle est comme l'amour, elle est inexplicable. Mmh. Et très souvent, quand on dit je t'aime, qu'on nous dit pourquoi est-ce que tu aimes d'amour ou d'amitié, pourquoi est-ce que tu aimes telle personne, ben, c'est quand on n'a plus de raison qu'il y a vraiment ce sentiment qui est inscrit, parce que sinon on a notre liste de raisons, ça ne colle pas.
Anne-Laure, justement, Mélanie disait paf, je pense qu'elle elle évoquait peut-être qu'on peut appeler un coup de foudre amical. C'est possible, ça existe ça?
Ah, question du coup de foudre. Alors moi, c'est un terme que je déteste, le coup de foudre.
Ça fait mal.
C'est un coup et c'est de la foudre. Alors quand on y pense bien, se prendre un coup, c'est pas génial. Et être foudroyé, c'est pas génial non plus. Donc moi, le coup de foudre, j'aime pas. En revanche, je parle d'évidence.
Oui.
C'est-à-dire le moment où on est attiré par quelqu'un qui va nous renvoyer la même attirance, et c'est complètement indicible et c'est complètement inexplicable. Et là, c'est vraiment, alors pour le coup, ça touche à l'amitié véritable, c'est-à-dire qu'on ne va plus du tout chercher à expliquer le pourquoi du comment on est attiré par l'autre, et il y a cette réciprocité qui n'existe pas toujours en amour, hein, puisqu'en amour, on peut être attiré, puis on se retrouve un peu bête.
Alexandra, pourquoi c'est plus facile, enfin, on a l'impression en tout cas, pourquoi c'est plus facile de se faire des amis quand on est enfant? Ça paraissait tellement simple quand on était dans la cour de récré, hop, t'es mon ami, t'es ma copine,
enfin, c'est vrai.
Adulte, ça a l'air plus complexe quand même. Hein.
Ben justement, parce que quand nous sommes enfants, nous faisons plus confiance en notre intuition. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que quand on était enfant, ben généralement, dès le premier jour de l'école, on avait déjà choisi notre meilleur ami. Et on pouvait même y aller direct. Tiens, tape là, tu veux être ma meilleure amie. Ben allez, c'est OK.
Allez, on est meilleurs amis.
Mais le pire, c'est qu'en fait, ça restait. On ne s'était pas trompé parce qu'on ne se méfiait pas et parce qu'on croit en notre instinct. Et ça peut durer une année scolaire, ça peut durer 10 ans, ou ça peut même durer toute une vie. Moi, je sais que ma meilleure amie du CP, ma première amie, nous sommes toujours amis. Donc,
c'est génial.
Et puis, on n'a pas eu de déception, donc on ne se pose pas de questions, en fait.
Exactement. Alors, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment ça se fait qu'en tant qu'adulte, on a plus de mal à se faire des amis, il y a plus de distance, plus de peur. C'est quoi qui...
La trouille.
On a la trouille de
plus
quoi?
Plus de pudeur, peut-être.
Mais trouille de quoi?
Il y a plus de pudeur, il y a plus de trouille, il y a plus d'expérience, donc il y a plus, a priori, de prise de recul. D'ailleurs, moi, je l'observe très souvent en consultation. Les personnes qui accumulent comme ça les amitiés sont soit restées dans un comportement assez... entre l'infantile et l'adolescent, donc elles sont dans une spontanéité incroyable, et elles sont très souvent très déçues, parce qu'au bout d'un mois, deux mois, six mois, elles s'aperçoivent que ces nouveaux meilleurs amis, ils n'en sont pas. Soit au contraire, on a commencé à ériger des nouvelles fondations, un cadre, en plus on est dans une société très normée, il faut avoir sa maison, son couple, ses enfants, son travail, machin. Et si on ne rentre pas là-dedans, bah, on se sent déjà démarqué, donc on protège notre précaré, faire rentrer quelqu'un dedans n'est pas si évident que ça. Et puis, d'une certaine manière, on manque de temps. L'amitié, elle demande un temps important. Elle demande de
s'investir vraiment. Pour la créer, pour la développer, c'est ça, effectivement. Et on a moins quand on est adulte que quand on est enfant.
On en a moins. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se faire des amis en tant qu'adulte. Ça veut dire que ça va nous demander un effort, réellement, parce qu'il va falloir trouver le temps, il va falloir s'investir, il va falloir être tolérant, patient. L'adolescence a le droit d'être intolérante, l'adulte beaucoup moins.
Alexandra, on disait tout à l'heure que c'était très difficile, enfin, ou même pas pensable, peut-être de ne pas avoir d'amis du tout, ou alors d'avoir l'impression de ne pas en avoir. Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce qu'il y a des gens qui vous conseillent, justement, je rappelle, vous êtes coach en développement personnel, mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent voir parce qu'ils sont trop timides et que justement, ils n'arrivent pas à se faire des amis? Qu'est-ce que vous leur conseillez a priori?
En tant que coach, justement, généralement, en tant que coach du bonheur, j'ai beaucoup de personnes qui manquent de confiance en elles. Donc, elles ont peur de ne pas être intéressantes. Donc, elles ne vont pas aller vers les personnes. Donc, plutôt, on ne va pas se dire comment je vais faire pour être intéressant, mais je vais m'intéresser vraiment à l'autre. Et si on s'intéresse vraiment à l'autre, si on lui pose des questions, si on lui montre qu'il est intéressant, on parle 2 minutes, on se souvient de son prénom, on l'a trouvé quelque chose de joli, on va lui dire peut-être, tiens, j'adore ta veste. Et si je te dis ça, à chaque fois que tu portes cette veste, si je te dis qu'elle te va bien en teint, tu te souviendras de moi. Donc, je t'ai déjà ancré quelque part dans ton cerveau. C'est vraiment se décentrer, parce que souvent, quand on est timide, on a peur du jugement, et se dire, Je vais vraiment m'intéresser à l'autre. Je n'ai pas peur de poser des questions, de parler de la pluie, du beau temps. Et à un moment, on verra qu'on crée du lien.
Anne-Laure, il y a un truc aussi qui est pratique avec l'amitié. C'est qu'il y a cette notion de fidélité, mais quand même assez différente de l'amour. Vous me confirmez qu'on peut quand même avoir plusieurs amis et on reste une bonne amie.
Ah bah oui,
je veux dire, on n'est pas ici.
On peut se tromper un peu. Quoi.
J'ai entendu tout à l'heure 3 et 2.
J'en ai 3, j'ai calculé.
Vos trois bons amis se rassurent, ils sont tous vraiment vos amis.
Bah oui.
Mais la fidélité, c'est... effectivement, en amour, on a quand même cette image qui est qu'on aime une personne d'amour et elle est censée nous le retourner, cet amour. Et on ne peut pas être amoureux de deux ou trois personnes à la fois.
Non, bon, ça existe, mais ça ne se fait pas couramment.
En tout cas, ce n'est pas, pas ainsi qu'on conçoit l'amour. Alors que l'amitié, ce n'est pas parce qu'on va avoir plusieurs amis qu'entre eux, il y a une infidélité ou qu'on pose une infidélité. En revanche, si un de vos trois amis vous disait « oui, je ne comprends pas, avec un tel, tu fais plus de choses, avec tu vois... » là. J'aurais tendance à vous dire, c'est un ami ou c'est un ami, comme on dit, toxique.
Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de jalousie ?
Ah ben non, il n'y a pas de raison. Enfin, on aime nos amis pour qui ils sont censés nous aimer pour qui nous sommes, et ce sont des personnes différentes. Donc s'il y a de la jalousie, c'est qu'il y a déjà de la comparaison, il y a de l'envie, il y a de l'orgueil.
J'ai l'impression que c'est plus féminin, ça. En tout cas, je me rappelle, moi, de l'époque de la jeunesse, où les trios de copines, là, ça ne marchait pas très bien toujours.
Non, mais elle n'est pas du tout genrée, la jalousie.
Non.
Peut-être elle s'exprime pour des choses différentes. Ce que j'allais dire. Peut-être elle s'exprime d'une manière différente.
Et je vois des hommes en régie et les hommes peuvent être jaloux. Je vous ai vu. Les hommes peuvent être jaloux comme les femmes peuvent être jalouses, mais ils ne vont pas le dire de la même manière. Nous, on va.
On n'est pas plus jalouse en amitié,
mais on va être qualifié de chippy ou de pain bêche ou de parce qu'on va exprimer quelque chose.
Vous croyez que les garçons ils vont se dire oh t'as vu plus de matchs avec Marc qu'avec Michel, enfin je sais pas, mais nous ça se disait ça, non Julia, vous aviez pas ça avec vos copines?
Mais justement,
au lycée t'as passé trop de temps avec Sabrina et pas assez avec machin.
Je fuyais ces filles.
Nous parlons, nous exprimons. Je dis pas qu'on le fait bien. Je dis pas qu'on le fait à raison. Mais nous exprimons quelque chose.
On fait des généralités, bien sûr, il y a des cas.
On voit que nous sommes quatre femmes.
C'est ça. Eh bien, merci.
Et nous aimons les hommes.
Oui, on les aime, évidemment. Merci à vous deux. Surtout, vous ne bougez pas. On va continuer à décrypter tout ce qui se joue quand on tombe en amitié. Pourquoi en avons-nous tant besoin de nos amis pour notre équilibre psychologique? Et puis, on va voir aussi comment guérir d'une amitié qui a fait mal. On va tout vous expliquer dans quelques minutes. Donc, restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis.
C'était Sheila.
Oui, c'était Sheila.
C'est votre génération,
ça. Oui. Bon, retour à l'envoyeur.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. L'amitié est-elle indispensable à notre bonheur? C'est notre sujet du jour. Et pour y réfléchir et surtout nous éclairer sur ce sujet, elles sont toujours avec nous. Alexandra de Roulac, coach en développement personnel, ainsi qu'Anne-Laure Buffet, thérapeute et conférencière. Alors Anne-Laure, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a l'impression d'être davantage connectée avec son entourage. On peut envoyer des messages tous les jours. On peut d'ailleurs aussi retrouver ses amis d'enfance. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que l'amitié 2.0 vaut autant que l'amitié
d'antan,
physique,
de l'époque de Sheila, par exemple?
J'ai bien connu. Mais tout dépend de ce qu'on attend de l'amitié, en fait. Si on prend Facebook, c'est quand même très vicieux ce mot ami.
Moi j'en ai que 400, je crois. Hein. C'est beaucoup.
Ouais, moi j'en ai 4365.
Excusez-moi, Mélanie. Vous sauriez les reconnaître dans la rue, vos 400 amis?
Non, pas du tout.
Mais moi j'ai 4367 contacts. Et parmi ces 4367, ou plus ou moins, on s'en fiche, j'ai en amis intimes, vraiment, des personnes qui sont sur Facebook, mais qui étaient amis avant. Il y en a. Je ne vais pas vous faire de concurrence. 3-4 amis vraiment intimes. Après, les réseaux sociaux ont quand même permis à certaines personnes qui pensaient ne pas avoir d'amis, qui étaient trop timides, de créer un lien. Et ce lien, si on l'entretient, peut donner naissance à des amitiés. Donc il ne faut pas les fuir, mais il faut savoir ce qu'on y met, ce qu'on en attend.
Alexandra, justement, c'est quelque chose que vous conseillez à ceux qui ont des difficultés à se lier comme ça en amitié, d'aller peut-être trouver des amis sur les réseaux sociaux, sur des applis de rencontres amicales, je ne sais pas si ça existe d'ailleurs.
Alors, je ne vais pas vraiment les conseiller sur ça, parce que ça peut être aussi à double tranchant. En fin de compte, si on est vraiment introverti, on peut avoir l'impression de ne pas être seul, alors qu'on est quand même seul devant notre écran. Donc c'est vraiment la personne, si elle se sent bien avec ça, je trouve ça très positif en effet, parce qu'on peut créer des liens, et puis après on peut voir les gens, on peut passer du virtuel au réel aussi.
Mais ça ne suffit pas en amitié, le virtuel.
On peut fantasmer, sinon ça peut être aussi un fantasme. Si c'est que du virtuel, ça ne suffit pas. Après, on peut avoir un vrai ami virtuel, pourquoi pas, mais avec d'autres amis qu'on voit vraiment.
On a un témoignage et une question que Camélia nous a laissée au 3921 sur notre répondeur, on l'écoute.
Salut Mélanie, salut Julia. Alors ma meilleure amie et moi, ça fait 7 ans qu'on se connaît et on se voyait presque tous les jours. Sauf que récemment, elle a déménagé en Grèce et c'est là que notre relation s'est un peu détériorée. Du coup, le seul moyen de contact qu'on a, c'est vraiment via téléphone. Sauf que le problème, c'est que moi, je reste pas souvent sur mon téléphone. Comment est-ce que je peux faire pour qu'elle comprenne que rester au téléphone toute la journée, c'est pas pour moi? Et comment garder une bonne relation avec elle? Parce que ça reste quand même ma meilleure amie.
Alors, Alexandra, Laure, quelqu'un veut veut répondre?
Déjà, Alexandra, la rassurer, je pense. Lui dire justement que c'est vraiment sa meilleure amie. Après, c'est vrai que dans le virtuel, on est tous différents. Donc, peut-être pour continuer quand même à créer du lien, faire des rituels, peut-être pas tous les jours, mais se dire, allez,
tous les dimanches,
tous les week-ends, tous les dimanches, on se dit à quelle heure on s'appelle et on se passe quand même un petit coup de fil. Et après, on peut toujours fonctionner avec un petit message dans la semaine. Mais arriver à trouver un rythme, que les deux soient d'accord, ça fait du gagnant-gagnant et on peut continuer à cultiver cette amitié.
Alors, quand ça marche que dans un sens, quelque part, l'amitié, en tout cas la communication amicale, là, c'est compliqué, elle n'est pas téléphone, l'autre, elle est en manque de coups de téléphone. Comment on fait pour continuer cette amitié quand on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde communicante?
Je vais dire un peu comme Alexandra, c'est... L'amitié, elle est faite de codes. Alors, ce sont des codes qu'on ne se nomme pas parce qu'ils paraissent évidents.
Mais elle s'entretient quand même.
Mais elle s'entretient. Mais là, il y a un code de langage, un code de communication à trouver entre elles. Et effectivement, si l'une des deux est très téléphone et l'autre pas du tout téléphone, c'est un peu compliqué. Mais peut-être qu'il y en a une qui peut essayer d'être un peu plus sur son téléphone et l'autre de comprendre un peu plus que son amie a moins besoin ou est moins à l'aise avec ce médium-là.
Et si on parlait un peu de l'amitié homme-femme, est-ce que... Oui, parce qu'on ce qu'on disait aussi avant de préparer cette émission, c'est que Julia me disait qu'elle avait que des amis hommes, quasiment dans les vrais. Vous mettez quasiment
beaucoup
que des
d'amis
hommes.
Gays. Ouais.
Voilà, beaucoup d'amis gays, parce que je m'entends bien avec.
Mais donc elle existe l'amitié homme-femme.
Voilà.
Mais pourquoi elle n'existerait pas?
Bien sûr. Non, c'est vrai que ça peut être une fausse croyance. Certaines personnes le disent, mais pour moi, c'est une évidence.
Excusez-moi, je précise que ce sont des amis gays parce que justement, j'exclus juste l'attirance. Est-ce que ça, c'est vraiment.
Mais est-ce que vous pouvez être amie avec un homme?
Bah, écoutez, certainement, mais je n'ai pas d'amis hommes hétéros, je dirais. Voilà. J'ai soit des amis femmes, soit des amis gays. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire si je pourrais être amie avec un homme.
Non, mais pour l'amitié homme-femme, vous savez, le couple a été déterminé hétéro pour une bonne et simple raison, c'est qu'il fallait qu'on se reproduise. Mmh. Donc un homme et une femme qui s'entendaient bien, je vous parle d'il y a 200 ans, qui s'entendaient bien, forcément on allait prêter derrière eux une intention sexuelle parce qu'on pensait reproduction, tout simplement.
On a un peu évolué depuis, heureusement.
Heureusement, on a évolué. Heureusement, les dernières années, même si je trouve que pour certaines choses ça va beaucoup trop vite et beaucoup trop loin, les dernières années ont beaucoup évolué sur la question du genre, sur la question de l'identité, heureusement. Et oui, bien évidemment, on est d'abord... amis d'humain à humain. Il s'avère qu'il y en a qui vont être des femmes, d'autres qui vont être des hommes, qui vont être LGBT ou pas LGBT. Et quelque part, on devrait s'en moquer pleinement et pas se dire je suis amie parce que c'est un homme, parce que c'est une femme, parce que je me reconnais pas. Simplement parce qu'il y a ce lien indicible et évident qui s'est imposé entre deux
mais
personnes.
Mais on n'est pas obligé d'attendre la ménopause. Je veux dire, si on peut
être amie. Non, c'est rare. Non, mais ça se passe bien aussi à la ménopause.
Alexandra, à partir de quel moment une amitié est-elle jugée vraiment toxique au point qu'il devient nécessaire d'y mettre un terme? C'est quoi les signaux qui doivent nous alerter?
Mais c'est vraiment une bonne question parce que de temps en temps, on se trompe, on peut se fâcher trop vite parce que les gens ne sont pas toujours comme on voudrait qu'ils soient et on peut se dire moi à sa place, je, et en effet, on se fâche trop vite. Donc je pense que c'est vraiment se poser les bonnes questions, d'abord communiquer. Si on voit que ça ne fonctionne pas, peut-être si la personne nous trahit quand il y a une vraie trahison. Mais attention que ça ne soit pas notre sensibilité, justement, se dire est-ce que c'est une vraie trahison et en parler peut-être avant avec la personne. Si on sent qu'en fin de compte, l'amitié, je parle du sentiment, et juste d'un côté, mais que la personne est intéressée, ça peut arriver. Quand quelqu'un est jaloux aussi, peut-être au début, ça part vers une vraie amitié. Mmh. Mais si la personne commence à être jalouse de nous, ben ça peut vite devenir toxique, malheureusement, parce qu'elle va nous rabaisser, parce qu'elle ne va pas se réjouir de notre bonheur. Donc, c'est vraiment quand on sent, en fin de compte, faisons confiance à notre énergie si on sent à un moment qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, quoi. Quand on lui parle, on se sent moins bien. Et vraiment communiquer d'abord et puis savoir mettre. C'est comme l'amour, à un moment, savoir voir la fin, si jamais c'est la fin, quoi.
Comment on sait que c'est la fin, justement ? Parce que quand il y a une grosse trahison comme ça, une amitié qui s'est terminée, il faut savoir laisser tomber. Elle a été importante à ce moment-là. Ou sinon, est-ce qu'on peut toujours avoir un espoir qu'elle guérisse et qu'elle se remette en route, cette amitié ? Qu'est-ce que vous pensez, Adeline ?
Pour reprendre les mots, laisser tomber ou avoir un espoir, ça répond à quelque chose que nous attendons. Et là, il faut se questionner soi. C'est finalement, qu'est-ce que je fais ? Si on en est là, on est à un constat. C'est-à-dire que l'amitié ne fonctionne plus. Une fois que j'ai passé mon cap émotionnel, je fais quoi ? Parce que rester accroché à quelqu'un qui m'a clairement dit
juste
te
rappeler les bons moments qui ont eu lieu et puis passer à autre chose.
Les souvenirs, c'est un album photo. On a le droit d'avoir nos albums photos qu'on a envie de regarder par moments. Puis à d'autres moments, on ne les regarde plus. Faut savoir se dire j'arrête aussi.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été à nos côtés ce matin pour répondre à nos questions. Pour davantage d'infos sur ce sujet, je rappelle votre livre, Anne-Laure. Ça s'appelle L'Amitié aux éditions Erol.
Merci. Oui, merci à beaucoup. Vous deux. On va maintenant passer à la séquence Tendance de Bienfait pour vous, dans laquelle Muriel Giordan du magazine Avantage va nous apprendre comment repérer les principales arnaques du moment. Si je vous dis compte CPF par exemple, je suis sûre que ça vous hérisse déjà le poil. Et puis enfin, Margot Grossman sera également dans la séquence qui va suivre. Elle va nous livrer ses meilleurs conseils pour manger ce qu'il faut pour avoir une belle peau. Et bien, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. À présent, on attaque donc notre séquence tendance. Et donc, dans ce studio, il y a déjà Margot Grossman. Bonjour Margot.
Bonjour Mélanie et Julien.
Mais Margot, que vous avez une jolie peau. C'est grâce à une crème particulière que vous avez ce teint radieux.
Je vais vous dévoiler tous les petits secrets. Par exemple, est-ce que vous connaissez l'aguaimento ?
Ça se met sur la peau ?
Et ça se mange. Ah, c'est l'un des nombreux aliments dont je vais vous parler pour sublimer votre peau.
On préfère, nous, quand ça se mange, de toute façon. Bon, restez avec nous, Margot, car pour le moment, c'est Muriel Giordan qui va nous rendre un grand service. Vous allez l'entendre. Bonjour, Muriel.
Bonjour.
Alors, Muriel, vous êtes journaliste pour le magazine Avantage, notre partenaire sur ce dossier. Donc, dans le dernier numéro, vous nous dites tout pour ne plus avoir à se faire avoir, surtout comme des bleus. On y a toutes et tous eu droit plusieurs fois par semaine. Je commence par l'appel et les textos pour nous demander, franchement, j'ai même plus envie de dire le nom.
On adore.
De faire ce qu'il y a à faire avec le CPF, là. Bon, comment on réagit ? J'en peux plus de ces textos.
Oui, bonjour, c'est le CPF. Oui, en fait, en gros, ils veulent votre argent, hein, parce que vous cumulez sur votre CPF pas mal d'argent, hein, des milliers d'euros. Donc, ça se décline en version SMS ou alors l'appel le samedi matin. Généralement, c'est une super heure, 8h du matin, pour nous appeler. Bonjour, c'est le CPF.
Alors là, le CPF, c'est compte professionnel de formation.
Compte professionnel de formation.
Qui existe, lui, par contre.
Qui existe, mais bien sûr. Ouais. Il ne s'agit pas de dire non à tout, mais voilà, il y a un seul site qui est à prendre en compte. Alors, si vous qui nous écoutez, vous pouvez noter, c'est mon compte formation tout attaché au singulier .gouv.fr. Alors après, il y a des déclinaisons. Attention, il y a des petites fautes d'orthographe. Parfois, ils mettent un S, parfois. Il faut regarder dans la barre Google, des tâches là-haut. Vous regardez si c'est bien orthographié. Et puis surtout, vous ne répondez pas à ces SMS. Vous ne répondez pas, vous ne cliquez sur aucun lien, rien du tout.
Mais j'ai fait n'importe quoi. Moi, l'autre jour, j'ai parlé une heure avec cette personne.
Mais non, alors elle était peut-être très sympathique,
Sympa.
Mais on aimait que votre argent.
Mais j'avais pas compris qu'elle en voulait à mon pognon.
Elle cherchait un ami, peut-être, cette personne. Vous
Mais oui, la pauvre, si elle nous écoute.
Est-ce que c'est ça, quelque chose de bloquer les numéros qui nous appellent ?
Moi, je les bloque tous, mais le problème, c'est qu'ils vous rappellent derrière un autre numéro. Alors, vous pouvez le faire, ça ne coûte rien. Mais l'idée, c'est de pas. Vous ne décrochez même plus, ou alors vous dites oui, au revoir.
Moi, je décroche et puis je laisse le téléphone comme
ça. Moi aussi, je fais ça.
Et comme ça, ils parlent dans le vide.
Oui, exactement.
Alors, il y a aussi, attention, moi j'ai eu ça aussi, franchement, je me suis tout le temps fait avoir, des escrocs qui arrivent à utiliser les logos comme celui de La Poste, exemple, et qui nous demandent de régler en fait des frais d'affranchissement pour pouvoir récupérer un colis.
Oui, alors ça arrive très souvent aussi. Ils utilisent, comme vous l'avez dit, des logos officiels, donc ça nous trompe. Mais là encore, souvent, on nous demande de cliquer sur un lien. Alors déjà, La Poste ne fait jamais ça. Il faut savoir, pour récupérer un colis, il n'y a jamais un SMS qui dit cliquez sur ce lien, remplissez un formulaire, etc. C'est de l'arnaque, on va vous demander votre numéro de carte bancaire ou de payer 2 euros. Parfois, on dit c'est des frais de douane ou alors vous vous êtes fait livrer un
truc.
Moi,
j'ai eu des frais de douane, moi.
Oui, alors parfois, c'est des faux frais. C'est-à-dire que ce n'est même pas les douanes. On vous dit, vous avez commandé un parfum. Manque de bol, c'est le cas. Vous avez vraiment commandé un parfum. Vous vous dites, super, je vais donner mon numéro de carte bleue. Ne le faites pas, ne donnez jamais, c'est bien simple. Vraiment, quoi qu'il arrive, ne donnez jamais vos numéros de carte bleue par SMS, oui, en ligne ou par mail.
Oui, mais alors quand c'est la police qui nous contacte, parce qu'il y a ça aussi. Moi, j'ai reçu une convocation judiciaire envoyée par la police avec lettre en tête, etc. C'est sûr que c'est bidon, mais j'ai rien fait de mal, je le savais. Mais
ça fait peur.
Mais les mails, ils ont l'air crédibles, hein, franchement.
Oui.
Hein.
En plus, vous recevez, c'est quelque chose qui dit oui, c'est la brigade des mineurs. Ouais.
Images pédopornographiques. Voilà.
Vous l'avez eu,
j'ai bien sûr rien à me reprocher, mais ça fait peur.
Oui, et vous vous dites peut-être que c'est quelqu'un qui a utilisé mon ordi, donc je vais être lié à une enquête et tout. Non, alors ça, c'est pareil. Souvent, c'est faux. Alors déjà, on vous affirme qu'il faut répondre à un mail. On vous dit qu'il faut cliquer sur un lien sous 72 heures, sous peine d'un mandat d'arrêt, tout ça.
Voilà. Ça fait peur.
Non, mais ça fait flipper, mais il faut vraiment pas, sachant que la police ne fonctionnera jamais de cette manière-là.
Ils vont m'appeler, non, s'il y a
bien
un problème.
Sûr, voilà. Oui,
ils vont vous chercher avec les menottes s'il y a un problème.
Et puis, vous pouvez aller sur internet-signalement.gouv.fr pour signaler ce genre d'arnaque, parce qu'il faut vraiment les dénoncer.
Et les fournisseurs d'énergie qui nous appellent pour nous promettre de faire des économies sur nos factures, il faut se méfier là aussi ?
Alors oui, on se méfie, surtout en ce moment, comme tout augmente. Bon, bah, ils se disent, on va les démarcher par téléphone. Mmh. Hein, les Français, ils cherchent à faire des économies quoi qu'il arrive, donc non. Déjà, le démarchage à domicile, quand il y a quelqu'un qui tape à la porte pour nous faire signer un truc à la va-vite, mieux vaut ne pas le faire. Encore moins par téléphone, parce qu'on vous dit, oui, ne vous inquiétez pas, c'est très simple, on va signer ça, le contrat en ligne, ça prend 2 secondes. On ne signe rien, c'est un miroir aux alouettes. La plupart du temps, on vous propose soi-disant des formules intéressantes qui sont moins chères que celles qu'on trouve réellement chez les fournisseurs, que ce soit internet, de gaz ou d'électricité, peu importe.
Alors idem, je crois, pour les investissements juteux, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas fiable. Comment on les repère ?
Alors en ligne, vous avez parfois des petites pubs qui s'affichent et qui vous disent vous allez vous faire de l'argent facilement, vous allez investir. Alors comme on se dit, bon, mon livret A me rapporte rien, etc.
Pourquoi pas ?
Pour peu qu'on vous appelle, parce que moi on m'a appelé plusieurs fois par exemple pour me vendre ça. Alors on vous dit, là il y a un truc qui marche en ce moment, c'est le diamant, c'est le whisky, les parkings, investissez dans les parkings à Paris ou dans les grandes villes, à Bordeaux, à Lyon, etc. Les crypto-monnaies aussi. On profite, alors ça il faut être un peu geek pour comprendre. Donc tout est prétexte à des investissements bidons. Donc là encore, on ne dit rien, on ne donne aucun RIB, rien du tout, on passe son chemin. Voilà,
alors
vraiment,
si hélas Muriel, ça arrive, hein, on s'est fait avoir, si on veut porter plainte pour une arnaque ou un piratage, comment on fait? On est obligé d'aller à la gendarmerie?
Alors vous pouvez faire ça, alors vous pouvez aller sur le site que je vous ai dit, un signalement pour signaler une arnaque. Et sinon, pour ces arnaques là où on vous propose de gagner de l'argent, vous pouvez contacter AMF Épargne Info Service. Voilà, il y a un numéro en 01, mais vous allez sur amf-france.org et puis vous pouvez vérifier si c'est une arnaque ou pas, ou sur regafi.fr, R-E-G-A-F-I. Ça recense les sociétés pour voir si elles sont bien inscrites au registre des agents financiers, si elles sont habilitées à vous proposer ça, ce qui n'est
rarement le cas.
Voilà.
Eh bien merci Muriel, tous les détails de votre enquête sur ce sujet sont à retrouver dans le dernier numéro du magazine Avantage, qui est dans tous les bons kiosques. Bon, maintenant on va passer à table avec vous, Margot Grossman. Alors moi, votre thème du jour, il me plaît à double titre. Déjà, j'adore manger, je prends toujours grand soin de ma peau. Donc si je peux faire les deux en un, ça me va totalement. C'est quoi le truc alors?
Bah justement, est-ce que vous savez comment manger pour prendre soin de votre peau toute l'année et pour la préparer à l'été? Parce qu'il n'y a pas que les carottes. Hein.
Non,
c'est ce qu'on va voir aujourd'hui.
On va commencer
justement.
Par quoi alors, Margot?
Alors pour la santé et la beauté de la peau, on a besoin d'aliments riches en zinc, en acides gras essentiels et en antioxydants, dont le fameux bêta-carotène. Alors ce bêta-carotène antioxydant, en fait, il va nous garantir un joli teint de pêche. Alors on le trouve dans les fruits et légumes rouge-orangés, type carottes, patates douces, mangues, tomates, abricots, melons. Alors à noter que certains légumes verts peuvent eux aussi contenir beaucoup de bêta-carotène, même s'il est en fait caché derrière la chlorophylle qu'ils contiennent. Et oui, le coquin.
C'est qui,
alors,
par exemple,
c'est le cas, des brocolis, par exemple, des épinards, de la mâche, du cresson. Mm-hmm. Alors je vous parlais aussi du zinc. En fait, il va lutter contre les imperfections de la peau, ce zinc. Alors on le trouve notamment dans les fruits de mer, surtout les huîtres, les moules et les crevettes.
C'est parfait, moi j'en ai fait une cure le week-end dernier.
Et
vous avez vu
parfait.
Un changement sur votre peau, cette peau, ce teint lumineux.
Et on a aussi donc les bons acides gras, comme par exemple les oméga 3, qui en fait vont jouer sur l'élasticité de la peau. Du coup, dans l'assiette, on va privilégier les poissons gras, comme par exemple le saumon sauvage, les sardines, les maquereaux. Mm-hmm. Sans oublier aussi l'huile d'olive, l'avocat, les œufs bio et les fruits secs, comme les amandes et les noix.
Moi, j'avais tout bon, mais comme il y avait peut-être un peu trop de tartines avec du beurre salé, ça a peut-être annulé les effets.
Et un peu de charcuterie chez vous, Mélanie. Et avec tout ça, on boit quoi?
Alors, j'allais y venir. Hein, mais malheureusement, pour l'apéro, ce sera surtout de l'eau, puisque c'est le composant principal de notre peau. Alors, dans l'idéal, 1,5 litre par jour à aromatiser avec du gingembre, du concombre, du citron ou des fruits. Légumes riches en bêta-carotène, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, l'hydratation, c'est vraiment la première règle pour protéger la peau des agressions,
que ce soit du froid, du soleil, du vent, de la pollution.
Bon, alors du côté des super aliments, vous avez des choses à nous conseiller, je crois.
Évidemment, les trésors de la nature, c'est ma partie préférée. Alors numéro 1, on a l'ouroukoum, hein, c'est de lui que vient l'expression peau rouge qui était donnée aux Indiens d'Amazonie, puis qui se colorait la peau avec pour la protéger du soleil et pour éloigner les moustiques. Je vous en avais parlé cet hiver, Mélanie, vous en étiez mis partout.
C'est vrai, ça s'est taché un peu. Mais
un petit accident d'ouroukoum. Alors c'est ce petit arbuste qui donne des fruits aux graines rouge-orangées, des graines qui font péter le compteur de bêta-carotène puisqu'elles en contiennent 300 fois plus que la carotte tout de même. Alors l'ouroukoum, c'est aussi un excellent auto-bronzant naturel qu'on peut utiliser par voie cutanée. On le mélange à notre crème de jour, par exemple, ou directement dans les plats. Et la bonne idée, en fait, c'est d'en ajouter une cuillère à soupe dans notre litre et demi d'eau et d'en boire en continu pendant la journée. Du coup, ça va nous hydrater tout en préparant la peau au soleil.
On va se faire une petite. Dans la bouteille, là, on va mettre une cuillère à soupe. À soupe.
Ça me ferait le plus gros.
Il est là, le roucoum. Allez, Julia, je vais vous en mettre un peu dans votre bouteille.
J'en veux bien, je vais continuer.
Donc, j'ai compris, on va faire une petite cure du roucoum avant l'été, mais quoi d'autre?
Ouais, très bonne idée pour la cure. Alors, on a aussi la clamate, qui est une algue souvent qualifié d'aliment vivant le plus complet de la planète, avec son taux record en bêta-carotène, en antioxydants et en vitamines. Alors elle ne vit que dans un seul endroit au monde, c'est le lac Klamath dans l'Oregon.
Comment vous l'écrivez, Klamath?
Alors K-L-A-M-A-T-H.
Ok, Klamath, parfait.
Alors c'est l'un des premiers micro-organismes vivants à être apparu sur la Terre, et donc elle ne vit que dans le lac Klamath dans l'Oregon aux États-Unis. Alors on peut en saupoudrer sur les yaourts, les compotes, en mélanger dans nos vinaigrettes, nos jus, nos smoothies. Alors, elle a tellement de bienfaits pour vous que je pense que je lui consacrerai une chronique d'ailleurs. Et en plus, elle va teinter nos plats de sa jolie couleur turquoise.
D'autres super aliments peut-être à nous partager pour prendre soin de notre peau, Margot?
Oui, alors on a aussi l'acérola que j'ai apporté avec moi. Alors, c'est cette
j'en prenais quand j'étais petite, je crois.
Ouais, c'est très bon. C'est une petite cerise sauvage qui vient d'Amérique du Sud avec sa couleur rouge vive. Donc pareil, teneur exceptionnelle en bêta-carotène et en vitamine C. On l'utilise en cuisine comme un cosmétique. Et puis on a l'aguaimento, vous pouvez goûter aussi. Hein. On l'appelle physalis chez nous. Alors c'est un petit fruit orangé au goût acidulé qui vient des Andes péruviennes. Alors lui aussi, donc l'aguaimento, mine d'or de bêta-carotène, donc nature, en pâtisserie, dans les muesli ou dans de l'huile ou pour aromatiser du riz par exemple.
Ah, ça pue le clamate par contre.
La clamate, c'est une algue.
La clamate, c'est une algue. Ça sent la mer.
Ça sent la mer, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. Bon, il faut en mettre un petit peu.
Oui, on les trouve où, ces super aliments?
Alors, pour le top de la qualité, moi, je vais chez Sol Semilla. Alors, c'est à Paris, dans le 10e, rue des Vinaigriers, ou sinon sur leur site internet. Sol Semilla, sol-semilla.fr. Et en plus, en ce moment, ils proposent -20% sur tous les produits avec le code SOLEIL. Donc, c'est le moment d'en profiter.
Alors, pour terminer, pendant que je mets quelques graines d'ouroukoum dans la bouteille de Julia, est-ce que vous pouvez nous donner une recette belle peau?
Alors, très simple et efficace, je vais vous proposer un petit houmous à la carotte et à l'ouroukoum. Alors, le pois chiche, c'est aussi un allié belle peau puisqu'il est riche en protéines végétales, mais aussi en cuivre qui est nécessaire à la formation du collagène, et en zinc pour purifier la peau. Alors, pour un bol, il vous faudra 225 g de pois chiche, 2 cuillères à soupe de purée de sésame, donc on appelle aussi tahini. C'est très bien.
C'est bon.
Ça va s'infuser tranquillement et on va pouvoir faire sa petite cure.
Excusez-nous, allez-y.
Alors, vous avez besoin aussi de 150 ml de jus de carotte, du jus d'un demi-citron, d'une gousse d'ail émincée, de quelques feuilles de coriandre, du sel, du poivre, une cuillère à café de cumin et une cuillère à soupe d'huile d'olive à l'ouroukoum. Alors, pour réaliser cette huile d'olive à l'ouroukoum, en fait, vous faites juste infuser une cuillère à soupe de graines d'ouroukoum dans un litre d'huile d'olive. Et en fait, l'huile d'olive, elle va fluidifier le passage dans le corps du bêta-carotène, des carottes et de l'ouroukoum pour le synthétiser en vitamine A et du coup activer la fameuse mélanine qui va pigmenter la peau. Alors pour le procédé, c'est très simple. On commence par faire tremper nos pois chiches toute une nuit et le lendemain, on les cuit à l'eau. Alors on va ensuite mixer tous nos ingrédients, sauf la coriandre. L'idée, c'est d'obtenir une pâte bien lisse. Ensuite, on va verser le mélange dans un bol. Et pour terminer, on ajoute la coriandre ciselée, puis on arrose de l'huile d'olive infusée à l'ouroukoum. Et voilà, c'est prêt, un petit houmous peau de bébé.
Pour l'apéro en plus, c'est parfait ça.
Pour tout ce que vous voulez.
Oh là là, c'est génial. Merci beaucoup Margot pour tous ces conseils à la fois culinaires et beauté. Aujourd'hui, c'était le top. On a donc toutes les infos pour retrouver notre peau de bébé et se régaler. Plus de recettes sur votre blog amasauce.com et votre Instagram margot-amasauce. Voilà, cette émission est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un chouette moment en notre compagnie. On sera bien entendu de retour lundi dès 11h. Julien, on s'intéressera à quoi?
Eh bien, on va détailler ce qu'est le syndrome de l'abandon. Vous savez, ce sont ces personnes qui, à cause d'un traumatisme ou pas d'ailleurs, ont sans cesse la trouille d'être rejetées par tout le monde, leurs amis, leurs amours par exemple. Eh bien, on va faire le point sur ce mal qui peut empoisonner la vie de ceux qui en souffrent. Mais surtout, on va vous proposer des solutions en fait pour en guérir.
Très bien. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Raphaël Delvolvé. Alors, quel est le programme?
Eh bien, dernier dernier jour de campagne pour les élections législatives avec cette question toute simple. Allez-vous voter dimanche pour le premier tour? Venez nous le dire au standard, au 39-21. Les sondages anticipent une forte abstention record avec près de 56%. Notre invité, le journaliste Louis Osalter de Marianne. Nous parlerons avec lui des élections législatives, mais aussi de son livre « L'étrange victoire, autopsie de la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron ». À tout de suite.
Merci beaucoup Raphaël, à tout de suite.